Il y a quelques personnes qui ont mentionné que mon introduction était un peu courte. Alors je vais, avant de commencer le message, le traitement du thème de la réconciliation, puisque c'était le traitement de ce week-end, cette semaine, je vais vous inviter en Israël. Est-ce que vous avez déjà été en Israël? Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes déjà venu à Kfar Saba? Bon, alors pour ceux qui sont jamais venus à Kfar Saba, eh bien, je vous invite à aller à Kfar Saba, dans la plus belle ville d'Israël, après Jérusalem, bien sûr. Parce que Jérusalem, incontournable, hein. Et je vais vous inviter donc à venir pour 5 minutes, hein. C'est pas EasyJet, mais c'est Easy Bouvines, comme on dit. Voilà. Et puis, je vous invite pendant 5 minutes, on va aller visiter les pierres vivantes. Les pierres vivantes, eh bien, c'est les pierres du dernier temple. Vous savez, on parle souvent à Jérusalem, le troisième temple, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être reconstruit? Oui, il sera reconstruit, mais c'est le temple de l'Antéchrist. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Jésus, quand il a payé sur la croix, il a payé, inclus, pour boire, tout est payé, tout est fini. Nous sommes le dernier temple, son dernier temple. Il y aura un autre temple, le syncrétisme, toutes les religions monophysites qui se rencontreront. Bien sûr, celui qui a le Fils a le Père, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Et c'est très important pour nous de comprendre que notre Dieu est un Dieu différent que le Dieu des autres religions, puisque notre Dieu est amour, il y a en lui déjà la pluralité. Donc, il nous a créés non pas par besoin, mais simplement pour partager avec nous, eh bien, qui il est. Et je vous invite en Israël, donc on va visiter cette communauté. C'est très important pour moi, vous êtes des pasteurs, vous êtes des anciens, vous êtes des personnes qui sont engagées dans l'Église, vous aimez le Seigneur et je suis pasteur aussi. Et donc, on a le même fardeau de garder les brebis et de s'occuper d'eux. Et je vous invite donc à rencontrer ces pierres vivantes. Donc, notre assemblée a commencé, ma femme et moi, dans notre salon, il y a une vingtaine d'années. On était trois familles. Maintenant, on est à peu près 200 personnes. On a implanté déjà 3-4 assemblées aussi. On a des leaders qui sont sortis de chez nous. En fait, nous, on dit on n'est pas vraiment une assemblée. On se déguise en assemblée, mais on est une école de disciples. Parce que Yeshua, Jésus, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Allez et faites des disciples. Donc, il n'a pas dit allez et trouvez des disciples, parce que les disciples, on n'en trouve pas, on les fait. Hein? Vous savez, c'est le charbon, hein, qui devient diamant. Et puis, c'est la perle qui vient de quoi? Ben un peu de salive dans une huître avec du sable, et puis ça devient une très belle perle. Alors on ne trouve pas les disciples. Si vous cherchez les disciples, vous n'allez pas en trouver. Il faut aller en faire. Et donc c'est très important de comprendre que le ministère de réconciliation, en fait, c'est de réconcilier les personnes avec le Seigneur, mais aussi les amener. Alors je vous invite ici, vous voyez là tous les enseignements que j'ai pour vous. Tout est préparé déjà. On a beaucoup, beaucoup d'enseignements. Alors, on va commencer par. Alors, je vais vous demander de m'excuser parce que j'étais à Mons en Belgique et j'ai donné le CD en français. Alors, il me reste plus qu'un CD en anglais. Alors, je vous traduirai. Voilà, je vous traduirai. C'est mon fils qui chante. Alors, bienvenue à notre assemblée. Vous avez bouclé vos ceintures là? On décolle, hein? Allez, Kfar Saba, la vallée du Saron, le centre d'Israël. Ça, c'est notre ville, 100 000 habitants, 85 synagogues, une seule assemblée messianique de juifs qui croient en Jésus. Le bâtiment de notre assemblée, le motto de notre assemblée, Ésaïe 12:3, vous puiserez aux sources du salut avec joie. Les anciens, les diacres. Ma femme ici, sur la gauche, c'est l'administrateur de notre assemblée. On se rencontre le samedi parce que dimanche c'est jour ouvrable. Donc on a l'assemblée le samedi matin, l'équipe de louanges, et le vendredi après-midi. On a deux cultes. Voilà. Alors on a un jeune groupe de danse. Vous voyez ces jeunes filles, c'est un groupe de danse. Elles vont dans toutes les conférences, elles dansent, elles chantent. Et on a une personne qui s'occupe du drama, c'est le théâtre. On a 10 auteurs-compositeurs dans notre assemblée, donc on fait beaucoup de CD, mon fils qui enregistre, qui produit. Et les enfants, on a à peu près 70 enfants, des bébés jusqu'aux adolescents. Voilà, donc on investit énormément aux enfants et surtout le maillon faible, Les ados, les adolescents. Voilà. Alors, on fait des camps de vacances pour eux l'été. On essaie vraiment d'investir au maximum parce que c'est un grand défi en Israël, la jeunesse. Et je crois que c'est un défi partout dans toutes les églises. Alors, les soldats, à partir à l'âge de 18 ans, 2 ans pour les filles, 3 ans pour les garçons, on prie pour eux. On les soutient, on a des intercessions. Les chambres de prière, c'est tous les mercredis. On invite les gens qui veulent recevoir la prière pour quels que soient leurs besoins. Donc ici, ce sont les fêtes, les célébrations de toutes les fêtes juives où on invite des invités, des amis, des personnes que nous avons déjà contactées. Donc c'est une possibilité d'évangélisation aussi. La fête de Pourim, toutes les fêtes juives, les fêtes de l'Éternel, sont utilisées pour apporter le témoignage qui parle en fait du Sauveur de Jésus. Voilà. Alors le Shabbat et le voyage à Jérusalem, où on va prier à Jérusalem le jour de l'indépendance, qui est un jour très très important. Et ensuite, ici, ce sont les services de l'aide aux personnes qui ont passé la Shoah. Ce sont des gens qui ont passé la Shoah, les mariages, les bar mitzvah. Voilà. Ici, c'est l'évangélisation, ça c'est dans les festivals du Nouvel Âge, où on a une tente, où on distribue la nourriture gratuitement, les baptêmes d'eau, je vous raconterai quelques témoignages, et ici on envoie donc ces personnes ici pour commencer des nouvelles assemblées dans toutes les villes aux alentours de Tel Aviv. Donc on donne 10% de notre temps aux nations, donc on est en Afrique, au Brésil, en Inde, où on soutient une léprosie, et en Europe, aussi pour apporter le message d'Israël. Le mystère de réconciliation, ce sont des pasteurs arabes, palestiniens. Ici, c'est en Turquie, là-bas en Jordanie. Et donc, c'est la route de la sainteté entre l'Égypte, la Syrie et Israël. Les ministères juifs et arabes ensemble. Je vous parlerai un peu de ce ministère de réconciliation. Les maisons de refuge, ce sont des gens qui sont émotionnellement et spirituellement démunis. Donc, on a des maisons d'accueil pour eux, dans des groupes de maisons, les séminaires, et surtout les séminaires pour couples. Des couples forts font des familles fortes, font une église forte. Ensuite, on a beaucoup de veuves et d'orphelins. On travaille beaucoup pour le ministère pour la vie, qui aide, donne des alternatives pour l'avortement. Donc, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à aider des personnes démunies. Voilà, les coupons qu'on donne gratuitement, la nourriture, les sponsors et la visite des hôpitaux. C'est très facile en Israël de visiter les gens à l'hôpital. Voilà. Une vie d'église où chaque personne a un ministère. C'est notre vision. Chaque personne a reçu un don, un ministère, et on encourage, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, nous on encourage la personne. Quel est ton don? Quel est ton ministère? Eh bien, vas-y, on t'encourage. On est derrière toi et on est avec toi. Voilà, donc vous êtes les bienvenus à venir la prochaine fois que vous venez à Kfar Saba dans notre ville. Voilà, vous avez une petite idée de ce qu'on fait, plus ou moins. Et le chameau, il a besoin d'être sauvé peut-être, je ne sais pas si vous avez la foi pour les chameaux. Moi j'ai la foi pour les perroquets, on avait un petit perroquet, sa patte était cassée, et on l'a ramené chez le vétérinaire, il a dit « Oh, c'est pas possible, c'est trop fragile, ça va pas guérir », et puis on a prié, la patte a été guérie, la patte du perroquet a été guérie. On a vu des chiens qui ont été guéris aussi. On a vu des chiens, parce qu'on a vu ces femmes qui avaient des chiens, elles pleuraient, et Dieu a vu leurs larmes, et a dit « Bon, bah, je vais guérir le chien quand même, allez ». Est-ce que vous croyez qu'il y aurait des chiens dans le jardin de Éden, dans le paradis? Il y aura des animaux? Bon, hein? Pas de chats? Mais on sera guéri des chats. Alléluia. Voilà. Bien, ok. Alors, si vous avez plus de questions là, sur Israël, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Israël, parce que Israël, c'est le troisième mot le plus utilisé dans la Bible. Voilà. De la Genèse au chapitre 12 jusqu'au livre de l'Apocalypse, c'est Israël, 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 Israël. Tout a commencé à Jérusalem et se terminera à Jérusalem. Vous savez, dans la tradition juive, Jérusalem, c'est la pierre de création. C'est là où Dieu aurait créé Adam et Ève. C'est le centre du jardin d'Éden. Il y avait un fleuve avec quatre, vous vous souvenez, avec quatre bras. Il y a l'Euphrate, le Tigre. Il y a le Pichon, le Guillon, qui sont le Nil blanc, le Nil bleu. avant que les continents soient séparés, ben, si vous mettez tout ensemble, vous voyez, c'est le pays de Canaan et Jérusalem, le mont Morija, là où Abraham a sacrifié son fils Isaac, Genèse 22, là où David voulait absolument en faire sa capitale, alors que c'est une colline dans les rochers à 900 mètres d'altitude, quelque chose qui est incompréhensible, pourquoi faire une capitale là-bas ? Et là où il a voulu absolument faire une maison pour l'Éternel, là où Jésus est mort, crucifié, ressuscité, là où il va revenir, mettre ses pieds sur le mont des Oliviers. Jérusalem, une ville incontournable. Jérusalem qui veut dire en hébreu la ville de la paix ou les deux villes de la paix. Yerushalayim, quand c'est haïm à la fin en hébreu, ça veut dire deux. Donc il y a la Jérusalem physique, la Jérusalem céleste, c'est un point de rencontre entre Dieu et l'homme. C'est le drapeau israélien, les deux triangles, vous savez, un qui va du bas jusqu'en haut et l'autre qui va du haut jusqu'en bas, c'est la rencontre entre Dieu et l'homme à Jérusalem, un point de rencontre, là où tout a commencé, là où tout se terminera. C'est pour ça que Jérusalem est une place spéciale aux yeux de Dieu, et c'est là qu'il reviendra, que tout se terminera. Voilà. Alors je suis un témoin venant de là-bas d'Israël, et je veux vous parler de ce ministère de réconciliation. Alors on va aborder notre thème qui va être en plusieurs parties. En plusieurs parties, on va commencer par ce ministère de réconciliation. Voilà, vous êtes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Alors est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'un ambassadeur ? Vous avez entendu déjà le terme ambassadeur ? Représentant, très bien. Représentant de quoi ? D'une nation, représentant d'une nation, très bien. Représentant d'une nation où ? Ailleurs, à l'étranger. Représentant d'une nation à l'étranger, dans un pays étranger. Hein ? Alors, nous sommes tous appelés à être des ambassadeurs. De quelle nation ? Du royaume de Dieu. Où est le royaume de Dieu ? Où est le royaume de Dieu ? Question théologique. En nous, d'accord ? Au milieu de nous, oui. Comment sait-on où est le royaume de Dieu ? Qu'est-ce qu'on entend dans le mot royaume ? Roi, voilà, roi. Où est le roi ? Il faut le redire. En nous, voilà, c'est bien. Le royaume de Dieu est parmi vous, c'est ce que Jésus a dit. Il avait un seul message, c'était le message du royaume. Le message du royaume, le royaume de Dieu est parmi vous. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de nous. Le royaume de Dieu est parmi nous, c'est le point de contact. Jésus est venu sur terre faire un point de contact et établir son royaume sur terre. Nous sommes ses ambassadeurs. Et c'est très important de comprendre. Et c'est, pendant ces deux journées, je voudrais vraiment communiquer avec vous que vous avez reçu la puissance et l'autorité d'être ses ambassadeurs. Vous êtes les représentants de Dieu sur terre. Et je pense ce que je dis et je dis ce que je pense. Vous êtes les représentants de Dieu sur terre. La plupart des gens dans le monde ne lisent plus la parole de Dieu. Mais par contre, ils vont lire votre vie. Et c'est pour ça que c'est très important que ce que nous communiquons, ce n'est pas seulement nos paroles. Vous savez, on est dans un monastère catholique et il y a un saint catholique qui s'appelle François d'Assise et qui disait « Prêchez l'évangile et si vous avez besoin de mots, eh bien parlez. » Voilà. Alors on prêche l'évangile par notre vie d'abord et on utilise bien sûr la parole de Dieu, le message. Mais souvent, des personnes ne vont pas écouter ce que nous disons. Eh bien, ils vont écouter ce que nous vivons. Et c'est très important pour nous, étant des ambassadeurs du royaume de Dieu, de vivre l'évangile, de vivre la vie. Et pour être un ambassadeur et à la hauteur, il faut être quelqu'un qui connaît le roi, qui connaît les valeurs du roi, qui aime ce qu'il aime, qui déteste ce qu'il déteste et qui entre en communion personnelle avec le roi. Et ce roi qui s'appelle Yeshua, qui s'appelle Jésus, eh bien, nous enseigne à être ses apôtres et ses ambassadeurs. Alors on va regarder, notre texte sera dans le deuxième épître de Corinthiens. Attendez, je vais m'installer de l'autre côté. Voilà. Car l'amour du Messie, l'amour de Christ, alors Christ, Christos, ça veut dire celui qui a été choisi, celui qui a été oint. Hein, en grec, c'est Christ. En hébreu, c'est Messie, Mashiach, celui qui a été choisi. On se souvient de l'histoire de Samuel, qui Dieu l'a appelé à oindre un autre roi après que Saül ait désobéi. Alors il va le chercher. Il va chercher. Le Seigneur lui dit déjà, la ville, c'est déjà pas mal. Bethléem, d'accord. La maison de Jesse, Ishaï en hébreu. Et il va chercher, il va voir tous les fils. Et il y a tous les fils, et il voit Aminadav, le grand, fort. Il dit, oui, lui, sûrement, ça va être le roi. Et puis le Seigneur lui dit, je ne regarde pas à l'apparence. Hein, ce n'est pas lui. Donc c'est pas lui, c'est pas le deuxième, c'est pas le troisième, c'est pas le quatrième. Et puis après, il pose une question. Tu n'aurais pas encore un autre fils qui traîne, là, vous savez, c'est Cendrillon, l'histoire de Cendrillon. Vous n'avez pas un autre fils qui traîne? Oui, d'accord, mais il garde les brebis, un secret de famille. Hein. On ne sait pas ce qui se passe. David est amené et Samuel met l'huile et il reçoit l'onction. En hébreu, Meshicha, qui vient du mot Mashiach, qui veut dire Messie, choisi, oint, pour être roi. Le Christ... Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Ce n'est pas Jésus-Christ. Hein. C'est celui le choisi. Jésus le Christ, on devrait dire normalement. Hein. Jésus le choisi, celui qui a été oint pour être qui? Pour être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour être celui qui est roi sur terre. Dieu, créateur du ciel et de la terre, a envoyé son Fils unique pour être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son amour, l'amour de Christ, nous presse. Car nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. C'est l'évangile qui est énoncé. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. C'est dans le livre de Romains. Par un seul homme, le péché est entré. C'est une grande question théologique. Qu'est-ce qui serait passé si Ève, après avoir été tentée par le serpent, on connaît son identité, selon le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, le serpent, c'est le dragon, c'est Satan. Hein, le serpent ancien, c'est Satan. Satan a tenté Ève de prendre le fruit, de le manger. Et qu'est-ce qui se serait passé si Ève, en venant à son mari, lui dit, voilà, mange. Et Adam lui aurait dit, mais tu sais, c'est défendu, c'est interdit, je ne le mangerai pas. Qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce que vous pensez qui se serait passé? Pas de chute. Pourquoi? Pas de désobéissance de l'homme. D'accord. Une autre côte, peut-être. Une autre anesthésie, une autre côte. Peut-être une autre femme, hein, une deuxième Ève. Peut-être, on ne sait pas. Mais à travers Adam, qui avait la responsabilité du vis-à-vis devant le Seigneur, il a choisi de suivre sa femme, le péché est entré dans le monde. On le sait. À travers un seul homme, le péché est entré dans le monde. Nous sommes tous fils d'Adam. Nous avons tous hérité de la nature de Adam, la nature du péché. Péché qui veut dire en hébreu manquer le but. Manquer le but. Le mot en péché, chet, qui veut dire l'arti et amatara, c'est-à-dire manquer le but. Nous avons été tous appelés, selon le livre d'Éphésiens, chapitre 1, à être saints, à le connaître, à le glorifier, choisi par lui, et manquer le but, eh bien, c'est choisir des petits buts qui nous empêcheront d'atteindre le grand but de notre vocation, de notre appel. Donc, à cause d'un homme, le péché est entré dans le monde, et il faut un autre homme, le second Adam, qui viendra, qui s'incarnera, Dieu lui-même, qui prendra chair et sang, et qui viendra s'incarner, est mort. Donc, tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et ici, c'est l'identification, en fait, avec le salut. Il nous a sauvés, afin que nous vivions plus pour nous-mêmes. Le Seigneur nous a rachetés. En hébreu, le mot racheter veut dire payer la rançon. Il a payé la rançon. En Israël, il y avait un jeune soldat qui s'appelle Gilad Shalit. Il était aussi français, citoyen français. Et pendant 5 ans, il était pris par le Hamas, par les musulmans de la bande de Gaza, et même la Croix-Rouge ne pouvait plus le voir. Et pour en finir, finalement, après 5 ans, eh bien, il y a eu une rançon qui a été payée pour lui. 1 000 soldats palestiniens prisonniers ont été relâchés, et ce jeune soldat, complètement traumatisé, on se demandait vraiment comment il allait survivre, mais merci Seigneur, Dieu l'a protégé, et il a été relâché. La rançon a été payée. Cette rançon qui a été payée pour nous, c'est la rançon du sang de Jésus. Jésus a payé la rançon pour nous. Il nous a rachetés du péché. Celui qui pêche est prisonnier du péché. Jean chapitre 8. Et ce rachat du péché, eh bien, c'est Dieu lui-même qui nous a rachetés. Donc, s'il nous a rachetés, nous le lui appartenons. Nous ne nous appartenons plus. Il ne nous a pas racheté seulement notre esprit, il a racheté notre personnalité et aussi notre corps. Donc c'est très important de savoir que notre corps ne nous appartient pas. Donc, imaginez-vous, vous avez un corps, il appartient au Seigneur, vous habitez en location dans votre corps et vous demandez la permission au Seigneur, ce que vous devez boire, ce que vous devez manger. Comment vous devez agir avec votre corps? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. On est d'accord? Bibliquement parlant, vous êtes d'accord avec moi? Non, j'espère, parce que c'est important. Nous ne nous appartenons plus. Donc, ici, il est dit, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Qui est mort et ressuscité pour nous? Jésus, d'accord. Donc pour qui vivons-nous maintenant? Jésus. Nous vivons pour Jésus. Est-ce que vous pouvez dire de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, je vis pour Jésus? Amen. Qui vit pour Jésus ici? Qui veut vivre pour Jésus? Allez, on va descendre la barre. Amen. On descend la barre. Qui veut vivre pour Jésus? Amen. Le Seigneur veut que nous vivions pour lui. Amen. Vivre pour lui, c'est être libre. La liberté, ce n'est pas faire ce que nous voulons. La liberté, c'est recevoir la force de faire ce qui est juste. Voyez la différence? Si on fait ce qu'on veut, on devient esclave. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Plus on fait ce qu'on désire, on devient esclave de nos passions et de nos désirs. Être libre, c'est recevoir la puissance de faire ce qui est juste. Vous vous souvenez, Romains chapitre 7? Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Voilà. Donc nous sommes appelés non pas à vivre pour nous, mais vivre pour lui. Donc c'est très important de savoir qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur. Dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous avons connu le Messie, le Christ, selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette même manière. Pourquoi est-ce que Paul a-t-il besoin de dire cela? Eh bien, quand il a écrit cette lettre, il y avait encore des personnes sur terre qui ont connu Jésus selon la chair. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu marcher en Galilée, à Jérusalem. Ils l'ont vu avec leurs yeux. Ils ont mangé avec lui. Ils l'ont entendu parler. Ils l'ont entendu prêcher. Ils l'ont entendu faire des miracles. Et ici, Paul dit, à partir de maintenant, maintenant que nous avons été rachetés par le sang de Jésus, maintenant que nous lui appartenons, maintenant que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, eh bien, nous ne regardons plus à personne selon la chair, c'est-à-dire aux apparences humaines. Et même si nous avons vu Jésus selon la chair, nous ne le voyons plus de la même manière. Alors imaginez-vous des gens qui ont vu Jésus selon la chair. Je vais poser une question théologique là, très importante. Jésus avait-il les cheveux courts ou les cheveux longs? Allez, qui est pour les cheveux courts? Qui est pour les cheveux courts? Levez les mains. Regardez, regardez. Qui est pour les cheveux longs? Levez les mains. Voilà. Vous êtes une famille d'église divisée déjà, voyez, point de vue théologique là. Mais on va prier pour la réconciliation. Vous inquiétez pas, on sera tous d'accord. Amen. Est-ce que c'est important? Ça, c'est Jésus selon la chair. Ses cheveux. Hein? C'est important ou c'est pas important? Hein? C'était pas correct d'avoir les cheveux longs. Comment? Quand tu étais des Nazaréens. Les Nazaréens, c'était c'est ceux comme. Donnez des exemples de Nazaréens. Jean-Baptiste ou Samson, voilà, des Nazaréens. Voilà, ils ont fait des vœux de ne pas boire de vin et de ne pas se raser la tête. D'accord ? Bon, est-ce que c'est important si Jésus a des cheveux courts, des cheveux longs ? Voilà. Est-ce que c'est important quand quelqu'un vient dans votre église qu'il a des cheveux courts, des cheveux longs ? On s'en fout. Amen. Qui s'en fout ? Qui s'en fout ? Levez vos mains. Et qui commence à penser des quand vous voyez quelqu'un un grand barbu avec des cheveux longs qui arrive là avec des tatouages et tout ça et vous commencez à Alors cheveux longs ou cheveux courts, c'est Jésus selon la chair. Est-ce que vous pensiez que quand Jésus était sur terre il riait ou il était toujours sérieux? Est-ce que ça lui arrivait de rire de temps en temps avec ses disciples? Qui pense que Jésus riait? Voilà. Qui pense que Jésus était toujours sérieux? Personne. Là, vous êtes en unité complète. Là vous avez retrouvé l'unité. Là, c'est fantastique. Là. Donc, vous êtes pour le rire. Vous êtes pour la joie. Alors, attention. Maintenant, grande question. Est-ce que Jésus, quand il riait comme ça, ho, 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 ou ha, ha, ha? Est-ce que c'est important ? Non. À partir de maintenant, Paul dit, nous ne regardons plus à Jésus selon la chair. Qu'est-ce qui est important pour nous ? Il est venu sur terre, fils de Dieu. Il est mort sur la croix. Il a été enterré. Il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Père. Il nous a sauvés, il nous a rachetés. C'est ça qui est important. De la même façon maintenant, regardez, nous ne regardons plus personne selon la chair. C'est-à-dire, c'est quoi regarder quelqu'un selon la chair? Selon l'apparence. Il y a parmi nous des hommes et des femmes, nous ne regardons plus personne maintenant selon qu'il est homme ou qu'il est femme. Nous ne regardons plus personne selon l'âge. Nous ne regardons plus personne selon l'apparence physique ou le social. L'éducation, tout ce que nous pouvons porter en tant qu'être humain. J'ai dans mon assemblée des petits enfants qui sont spirituellement plus matures que des personnes âgées. J'ai un jeune garçon, il a 12 ans, c'est un intercesseur. Il prie de tout son cœur, il a une relation personnelle avec Dieu, c'est incroyable. Et je le vois dans l'esprit comme quelqu'un de très mûr, très mature. Par contre, j'ai des personnes de 60, 65 ans, ça fait peut-être 15 ans qu'ils sont avec nous dans l'assemblée, ce sont toujours des bébés en Christ. Ils ne peuvent seulement boire que le lait. Ce sont des enfants. Ils ont l'apparence d'être des personnes âgées, mais ils sont des enfants en Christ. Alors qu'il y a des jeunes, des ados, ou des jeunes croyants, ils ont peut-être un an de conversion, et ils ont fait du chemin avec le Seigneur. À partir de maintenant, nous ne regardons plus personne selon la chair. Et je crois que cette capacité de regarder comme Jésus regarde, de regarder dans l'esprit, de voir au-dessus de toutes les boîtes ou tous les cadres dont on est conditionné, nous permettra de faire face aux défis qu'il y a dans notre Église et dans nos communautés. Parce que le Seigneur va toujours nous amener qui ? Des gens qui sont différents de nous. Des gens qui sont différents de nous parce que quand Jésus est venu dans ce monde, regardez, il a eu des disciples d'un peu partout. Regardez le cercle des disciples que Jésus a choisi. Ces 12 disciples qu'il a choisis, ils étaient tous différents. Il y en avait qui étaient des zélotes. Les zélotes, c'était des personnes qui étaient très, très, comment on dit ça, politisées à fond. Ils étaient politisés à fond. Ce zélote, il voulait par la force, eh bien, combattre les Romains. Et Jésus l'a choisi. Il a choisi cette personne pour être son disciple. Il a choisi des pêcheurs en Galilée. Il a choisi... Attendez, on va attendre là. C'est quoi ça? Vous me faites quoi là? Des coups de bébé, d'accord, ok. Bon, ben on va s'adapter, on va plus regarder selon la chair. Qui sait, ce bébé est peut-être très spirituel, là, il est en train de... Alors, on va maintenant regarder que Jésus a choisi différentes personnes, différentes de lui, complètement eux-mêmes différentes les unes des autres. On avait des zélotes révolutionnaires, on avait un tax collector, c'était un représentant des impôts, un représentant des impôts, on avait des pêcheurs, on avait même Judas Iscariote. Judas Iscariote qui, c'était marqué dans la parole de Dieu, c'était un voleur, et quel était son rôle? Jésus lui a donné quoi? La bourse. Imaginez-vous le Seigneur qui donne la bourse à qui? À quelqu'un qu'il sait, qu'il connaît, qu'il va le trahir et qui prenait aussi de la bourse. Jésus, jusqu'au dernier jour, a amené cette grâce et cette compassion à Judas Iscariote. Et peut-être une compassion parce qu'il savait que c'était l'homme de la perdition. Mais ça, c'est un autre sujet. Regardez. Nous ne regardons plus personne de la même manière. Et ça, c'est un défi que nous avons dans nos assemblées, dans nos groupes, quand nous voyons des personnes venir, où souvent nous avons ce qu'on appelle des préjudices et des préjugés. On est humain et on a tous des préjudices et des préjugés. Je crois que c'est très important de comprendre pour nous que Jésus est venu pour briser ses préjudices et ses préjugés. Il est venu pour briser tous les murs de séparation entre nous et les autres, et surtout entre nous et lui. Et dans ce ministère de réconciliation, eh bien, il nous est dit ici, on va continuer, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné ce ministère de réconciliation. Le ministère de réconciliation est un ministère que le Seigneur nous a donné afin que nous puissions être ses ambassadeurs. Ce ministère de réconciliation, eh bien, c'est la possibilité de voir que nous sommes devenus une créature nouvelle et que Dieu nous appelle dans notre identité nouvelle, à reconnaître et à voir les autres personnes comme des nouvelles créatures, des personnes qui ont été rachetées par le sang de Jésus, et que nous ne les voyons pas selon la chair, mais nous les voyons selon l'esprit. Et ça, c'est un ministère, ce ministère de réconciliation, c'est un ministère qui est très important aux yeux de Dieu, parce que c'est la raison pour laquelle il est venu sur terre. Pour nous réconcilier avec lui, afin que nous puissions être réconciliés avec les autres. C'est la croix qui parle de la relation personnelle. Notre foi est une relation avec le Dieu vivant, c'est vertical, et avec les hommes, l'horizontal. Et les deux commandements qui sont dans toute la loi, comme Jésus a enseigné à ses pharisiens, il leur a dit, eh bien, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment peut-on aimer vraiment? Aimer, c'est donner de soi-même si nous sommes toujours bloqués dans nos préjugés et nos préjudices. Et le Seigneur est venu briser tous ces jugements que nous avons. Donc, on a besoin de grandir, notre cœur a besoin de s'étendre et de grandir afin que nous puissions rentrer dans ce ministère de réconciliation qui nous appelle à aimer le monde entier. Dieu a tant aimé le monde, cosmos, qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus, eh bien, il est venu aimer toutes les nations, les peuples différents. Il les a aimés et il a donné sa vie pour ses disciples. Et de la même façon, nous sommes appelés à être des ministères de réconciliation. Nous sommes des ponts et non des murs. L'Église doit être un pont entre les différents groupes sociaux, religieux, spirituel, nous sommes appelés à être des ponts. Nous sommes appelés à être ces personnes qui vont réconcilier l'humanité avec son Dieu et réconcilier l'humanité en Jésus. Alors on va continuer au verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. » Alors, on se souvient, dans Romains, il est dit aussi, « Pendant que nous étions ennemis de Dieu, Dieu a envoyé Yeshua, Jésus, sur la terre. » Dieu n'a pas attendu que nous soyons devenus justes, mais pendant que nous étions encore pécheurs, il a envoyé Jésus. C'est l'histoire de cette personne très âgée qui avait une vieille maison, une vieille bâtisse dans un grand champ. Et il voulait vendre sa maison. Et tout d'un coup vient un promoteur immobilier qui vient et qui lui dit « Je veux t'acheter ta maison ». Alors la personne, c'est toute sa vie, il avait vécu du matin de sa jeunesse jusqu'à un âge très 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 avancé. Il lui dit attendez, revenez dans un mois. Alors pendant ce mois, eh bien, il a commencé à peindre sa maison, à arranger les murs de sa maison, la toiture. Il a tout bien arrangé sa maison. Un mois plus tard, le producteur immobilier arrive, il signe le contrat, la personne part. Un jour plus tard, le bulldozer arrive, détruisent toute la maison. Et ce producteur immobilier, eh bien, il construit un immense bâtiment de plusieurs étages. Et souvent, ça c'est ça dans notre vie. On aime dire au Seigneur, « Seigneur, ne viens pas maintenant, je ne suis pas encore prêt, je vais m'arranger, ça va aller mieux, tu vas voir. Après, tu pourras me voir. » Souvent, quand je vais voir ma mère, elle a quand même 80 ans, mais elle dit, « Attends, une minute, viens plus tard. » Et elle va se faire les cheveux, s'arranger, préparer, ranger la chambre, comme si c'était important pour moi quand je viens la voir. C'est souvent comme cela que nous sommes. Quand nous étions ennemis, eh bien, l'Éternel, notre Créateur, a envoyé Jésus. Il n'est pas venu à nous parce que nous étions justes, parce que nous avions obéi à sa loi. Au contraire, on peut dire que nous avons désobéi, que nous sommes pécheurs. Il nous a rencontrés en tant que pécheurs. Et maintenant, ici, regardez dans ce texte qu'il a dit. Il n'a pas imputé aux hommes leurs offenses. Et de la même façon, Dieu nous demande à ne pas juger ceux qui viennent chez nous, de ne pas leur imputer leurs offenses, mais de passer au-dessus, de les aimer pour qui ils sont et pas pour ce qu'ils font. Et ça, c'est une qualité que le Seigneur nous appelle à faire grandir en nous, parce que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Nous sommes habitués à regarder à nous-mêmes et à regarder aux autres par rapport à ce que nous faisons. Dans la plupart de nos relations, la première chose qu'on va demander, c'est « Qui es-tu ? » « Qui es-tu ? » Alors souvent, on va dire peut-être son nom. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'on va dire ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Et souvent, on va dire la profession. Hein ? Je suis enseignant, je suis pasteur, je suis femme au foyer. Qui es-tu ? C'est qu'est-ce que tu fais ? Alors que ce n'est pas la question qu'on a posée. Est-ce que notre identité est dans ce que nous faisons ? Ou est-ce que notre identité est bien plus profonde que ce que nous faisons ? Regardez la plupart des personnes retraitées qui ont travaillé toute leur vie et qui se trouvent maintenant sans travail ou qui ont été licenciées. Regardez la dépression dans laquelle elles entrent. Parce que toute leur vie, elles ont été conditionnées. Mon identité, c'est mon travail. Non, Jacques, toi, non, t'es à part, toi. Mais toi, tu fais de la musique, toi, t'es pas retraité. Voilà. Hein ? Abraham, 75 ans, hein, sors de ta zone de confort. Hein. Et Moïse a commencé son ministère à l'âge de 80 ans. Hein. À 40 ans, c'était un homme fini, il était un meurtrier, un homme fini. Voilà, il s'est échappé, rattrapé par le Seigneur. À 80 ans, il commençait son ministère. Il n'est jamais trop tard pour bien agir. Et souvent, notre identité est dans ce que nous faisons. Et souvent, c'est là le piège. Parce que souvent, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que directeur de ministère, eh bien, nous tombons dans ce piège. Si je réussis, je suis quelqu'un. Si je ne réussis pas, et c'est souvent, nous sommes conditionnés par ce que nous faisons. Il faut produire, il faut produire, il faut produire. Et cela, nous tombons dans le piège de l'activisme. Alors que le Seigneur nous demande quoi ? D'être. D'être. En anglais, je ne sais pas si vous connaissez l'anglais, quand on demande, hein, to be or not to be, ouais. Être ou ne pas être. Mais en anglais, on dit, how are you doing ? Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais, Ken ? Au lieu de dire, how are you being, Ken ? Qu'est-ce que tu es ? Nous avons besoin d'être d'abord. Et souvent, quand on me pose la question, je dis, qui es-tu ? La première chose qui me vient à l'esprit, bon, j'ai dû quand même le cogiter, j'ai dit, je suis le fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. J'ai été racheté par son sang. Je lui appartiens. Je suis d'abord son fils. Ensuite, pour lui dire merci, eh bien, je le sers de tout mon cœur dans ce qu'il m'appelle à faire. La parole de Dieu dit que à chacun d'entre nous, il a créé des œuvres afin que nous rentrions dans ces œuvres. Et on rentre dans l'obéissance dans les choses qu'il nous a appelées. Et c'est pour ça que reconnaître ces dons, reconnaître les choses que Dieu a placées dans vos cœurs, chacun d'entre vous, différemment, sont très importants. Dans notre conseil d'anciens, on est quatre, mais nous sommes quatre personnes différentes, complètement différentes. On peut nous appeler tous des pasteurs ou des anciens, mais nous avons chacun une sensibilité différente et des appels différents. J'ai un frère dans notre conseil, lui c'est un évangéliste. Chaque fois que des choses, des problèmes d'église vont venir, c'est toujours le salut des âmes, aller, sortir, faire, évangéliser, c'est son cœur. Nous connaissons son cœur et il sait que nous connaissons son cœur. Nous le soutenons, nous l'encourageons. Il y en a un chez nous, c'est un berger. Il faut toujours s'occuper des brebis, de leur bien-être, de les aider, de les soutenir, de venir à eux en aide. Nous reconnaissons son ministère et nous l'encourageons à rentrer dans ce ministère. Et puis on a un autre, c'est un enseignant, c'est un docteur. Il connaît la parole et lui, il va apporter les règles, les enseignements pour nous permettre d'avancer. Nous reconnaissons son ministère. Et puis il y en a un autre aussi qui est assez prophétique. Le Seigneur lui donne des paroles. Alors il va se lever et dire « Je sens que le Seigneur nous appelle à faire ceci ou cela. » Et nous reconnaissons ses dons. C'est très important que nous sachions que dans notre ministère de directeur, de dirigeant, d'ancien, nous n'avons pas tous les dons. Et donc il est très important pour nous d'avoir autour de nous des personnes qui sont différentes de nous. Non pas seulement des gens qui disent « oui monsieur le pasteur », qui sont d'accord avec nous. Parce que plus on a de personnes qui sont d'accord avec nous, pour en finir, on va rester dans notre petit cercle. Ce qu'il faut, c'est trouver les gens qui ne sont pas d'accord avec nous et essayer de les faire rentrer dans le leadership. Des gens dont on connaît leurs valeurs, dont on connaît, dont on sait, ce sont des hommes de Dieu. D'accord, ils ont différentes sensibilités, différents dons, différents appels, mais est-ce que ça ne pourrait pas enrichir notre Église ? Et moi, je me souviens personnellement, dans ma vie personnelle, où on s'est retrouvé un peu dans une impasse, où le Seigneur m'a dit « Élargis, élargis, va demander à celui-là, oui, mais je ne suis pas complètement d'accord avec son point de vue théologique. Sur... » Passe du temps avec lui. Apprends à le connaître. Et laisse-toi, fais-toi connaître. Fais connaître ton cœur. Parce que souvent, le grand danger que nous avons, nous, en tant que pasteurs, c'est de partager notre cœur avec les brebis parce que quelquefois, on a été blessé. Et justement, ce problème de réconciliation, c'est quoi ? C'est pouvoir aimer comme si nous n'avions jamais été blessés. Et on en parlera demain. La clé du pardon. La clé de demander la guérison au Seigneur afin que nous puissions de nouveau avoir un cœur complètement pur, un cœur nouveau, une grâce nouvelle pour pouvoir encore faire confiance aux autres qui sont différents de nous. Parce que c'est ça la richesse de l'Église, c'est ça qui va faire une Église forte, une Église qui va grandir, c'est quand il y a la multiplicité des ministères ensemble avec des personnes différentes, mais qui sont complémentaires. Regardez, si vous êtes marié, votre femme, ma femme est complètement différente de moi. Je remercie le Seigneur, elle est complètement différente de moi. Tous les dons que je n'ai pas, elle les a. Toutes les qualités que je n'ai pas, elle les a. On se complémente. Et souvent, eh bien, c'est ce qui se passe dans un couple. Est-ce que vous êtes d'accord ? Hein ? Vous êtes d'accord ? Dieu nous a mis en couple afin de pouvoir se complémenter. Qui sont les personnes qui sont déjà arrivées à la révélation qu'on ne peut pas changer son époux ou son épouse ? Levez la main. Vous êtes sage, c'est bien. Vous êtes sage. Vous êtes arrivé à cette révélation, hein ? Toi aussi, mon frère, hein ? Tu as... Hein ? T'as d'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer maintenant à diriger l'Église, puisqu'on peut, hein, on peut accepter le fait qu'on ne peut pas se changer. On ne peut pas changer notre épouse. On ne peut pas changer les autres personnes que le Seigneur amène dans notre Église. On peut peut-être demander au Seigneur de nous changer, de nous ouvrir le cœur, de ne plus regarder seulement à l'apparence, mais de regarder à ce que Dieu fait. Et souvent, ce que Dieu fait, il amène des personnes dans notre vie pour ouvrir, élargir nos horizons. Je vais vous donner simplement des exemples comment nous sommes dans notre communauté entrés dans ce ministère de réconciliation. Est-ce que vous voulez que je vous raconte des histoires concrètes de ce qui s'est passé ? Quand on a commencé notre assemblée, nous étions une petite assemblée, et on avait une vision, on croyait que c'était la vision du Seigneur. On était en Israël, on parlait hébreu, et c'était tous des juifs sauvés qui ont reçu l'évangile. On était à peu près une trentaine de personnes. Et on s'est dit, le Seigneur nous a donné cette vision d'être particulière, d'avoir une église, une assemblée pour les juifs en hébreu seulement. Voilà, c'était notre... Et donc, on apportait l'évangile à d'autres Israéliens, à d'autres Juifs. Et voilà que sont venus deux jeunes Allemands. Deux jeunes Allemands, 20 et 22 ans, frères et sœurs, un frère et une sœur. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est les Allemands, en Israël, c'était à peu près il y a une vingtaine d'années, n'étaient pas tellement bien vus en Israël. Vous saviez que jusqu'en 1985, à peu près, les Israéliens n'achetaient pas Volkswagen. À cause justement du problème de la Seconde Guerre mondiale. C'est le, comment on dit, le background, l'arrière-plan, voilà. Donc, ces jeunes, ils sont super, ils viennent chez moi, avec ma femme, on les a tout de suite, on a vu vraiment leur qualité, c'était des gens qui voulaient, ils avaient le feu, ils voulaient servir. Ah oui, bien sûr, allez, venez, rajoutez-vous. J'avais complètement oublié la vision, seulement pour les Israéliens, en hébreu, les juifs seulement. Oui, venez, venez, c'est mon cœur qui a parlé là. Donc je les amène dans la réunion de prière, on avait une réunion de prière, une trentaine de personnes priaient. Et puis tout d'un coup, je les introduis, ils s'assiedent, on est en cercle à peu près comme ça. Et tout d'un coup, il y a une dame israélienne, une quarantaine d'années, Elle dit comme ça, en les regardant, je ne peux pas prier avec vous. Un froid complet, je ne peux pas prier avec vous. Vous êtes allemand. Et toute ma famille a péri dans les camps de concentration. Cette femme avait 40, 45 ans. 18 et 20 ans, ou 20 et 22 ans, je ne me souviens plus, des jeunes. Un froid. Qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter la réunion de prière, on va commencer à discuter, on va commencer à faire de la politique, on va commencer à donner un message sur le pardon. Oui, mais il faut pardonner. Cette jeune fille est venue, s'est mise à genoux devant cette dame. Et elle a dit comme ça. Quand je suis née, la guerre était terminée depuis longtemps. Je n'ai pas vécu la guerre. Mais je suis allemande. Et en tant que représentante de mon peuple, l'Allemagne, je te demande pardon pour les péchés de ma nation contre ta famille qui a souffert. Je te demande pardon. Et tout de suite, quelque chose s'est passé dans le cœur de cette dame. Elle a commencé à pleurer. Et elle a commencé à prendre cette jeune fille dans ses bras. Elle a reçu la guérison. Dieu l'a guérie à travers son ancienne ennemie. Et c'est ça que je veux vous dire avec vous, la réconciliation, c'est quoi? Eh bien, c'est être réconcilié avec ses anciens ennemis. La clé de la guérison est toujours dans les mains de nos ennemis, de ceux qu'on considère comme nos ennemis, bien sûr. Cette Israélienne, cette Juive, a été guérie par une jeune Allemande qui s'est humiliée. Cette fille n'a pas regardé à son orgueil. Elle est venue à genoux, elle a demandé pardon. C'était elle la plus mature. Elle était jeune, mais elle était beaucoup plus mûre que l'autre. L'autre était restée avec le traumatisme de sa famille. Quand on est traumatisé, on reste coincé. Vous rencontrez des personnes, ils ont été traumatisés à l'âge de 16 ans, ils sont restés des adolescents dans leur âme. Et cette personne a été guérie. Cette personne a adopté cette jeune Allemande, mère et fille, dans le Seigneur. Et ça, c'était la première révélation de ce ministère de réconciliation. Et si on élargissait les portes dans notre église? Et si on élargissait les portes, justement, pour voir qu'est-ce que le Seigneur va rapporter dans notre église? Je vais vous donner un deuxième témoignage. Une personne arabe qui s'appelait Taysir. C'est un Palestinien, musulman. Il habite dans une des villes à côté de chez nous. Et souvent, quand il allait à l'école, on venait lui dire « Les enfants, aujourd'hui, vous n'allez pas à l'école. Parce qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision étrangères vont venir vous filmer. » Ils sont prêtes. On a déjà préparé les monceaux de cailloux. Et puis vous allez jeter des cailloux quand le tank israélien va venir. Et toutes les chaînes de télévision vont vous filmer, vous serez à la télévision. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas l'école. Super contents les enfants. Waouh, super, on va pas à l'école. Ils sortent dans la rue. Les pierres sont là. Les adultes sont derrière. Puisqu'il faut quand même que les chaînes de télévision, il y a les Français, la BBC, il y a les Allemands, ils sont tous là. Tout est organisé à l'avance. Et vient le tank israélien. Dans le tank israélien, il y a 3 soldats. Il y a un sergent qui vient juste de finir son service militaire, il a 22 ans. Et il y a 2 jeunes recrues, 18-19 ans. Ils sont dans le tank. Ils arrivent avec le tank. Et il y a tout tous ces enfants, une vingtaine d'enfants, qui commencent à leur jeter des pierres, des grosses pierres comme ça. Les soldats, ils ont peur. Imaginez-vous, trois jeunes gars. En plus, ils ont reçu l'ordre de ne pas tirer. Parce qu'il ne faut pas que ça, ce soit à la télé quand même. Que des soldats puissent tirer sur des enfants, ça ne ferait pas bonne apparence. Alors, ils ont des fusils, mais ils ont des balles en caoutchouc, ce ne sont pas des vraies balles. Mais les balles en caoutchouc, ça fait quand même mal. Surtout quand on est un petit enfant de 10 ans ou 12 ans. Alors, ce Tessir, ce jeune Tessir, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit une balle en caoutchouc, ça lui brûle. Et il commence à maudire ses soldats israéliens. Et puis vient une autre jeep de l'armée avec des autres soldats qui sortent et qui courent après ses enfants. Ils en chopent quelques-uns, garde à vue. Pour un petit enfant de 10 ans et 12 ans de rester 2 jours en prison avec une brûlure de balle en caoutchouc, c'est un traumatisme. Et ils vont le garder longtemps. Et cette jeune personne, cet arabe musulman, il a commencé à faire grandir une haine des Israéliens. 10 ans plus tard, il est travailleur journalier. Travailleur journalier, c'est quelqu'un qui est assis devant la grande route, la grande autoroute, à 6h du matin et qui attend que quelqu'un vienne le chercher pour la journée, pour travailler pour la journée. Il n'y a pas beaucoup de travail. Et voilà qu'une voiture s'arrête, c'est un Israélien qui travaille dans un kibbutz, un village d'agriculture. Il y a un poulailler là-bas, il y a une semaine de travail. Oh, Tessir, il est super content, il va travailler une semaine complètement. Il arrive dans le kibbutz et à côté de lui, il y a des autres travailleurs. Ce sont des jeunes qui viennent d'Europe, ce sont des volontaires chrétiens, des Hollandais et des Allemands. Tout de suite, ils ont vu ce jeune Tessir et ont commencé à l'aimer. Ils commençaient à le témoigner de l'amour de Jésus. Ils lui ont donné un Injil, un évangile en arabe. Ils lui ont donné dans sa main. 2 jours, 3 jours plus tard, il avait lu déjà l'évangile et il a prié avec ses jeunes pour recevoir Jésus. Né de nouveau. Tout d'un coup, il a réussi à comprendre que Jésus n'était pas seulement un prophète, mais qu'il était aussi son sauveur. Fantastique. Je ferme la parenthèse. Une autre personne qui s'appelle Shlomi. Et Shlomi, lui, c'est un juif irakien. Sa famille vient d'Irak depuis des générations. Vous savez, c'est les juifs qui ne sont pas revenus de Babylone. Ils sont restés pendant 2000 ans en Irak. Il y en a beaucoup comme ça. Juif irakien, c'est les années 60. Toute la famille, tous les juifs irakiens doivent quitter le pays. Ils sont expulsés. Et ils partent, lui, le petit Shlomi, avec ses parents. Ils doivent aller à pied jusqu'à la frontière turque et ils viennent en Israël. Il a grandi avec la haine des Arabes. C'est une grosse baraque, c'était un gars vraiment... une armoire. Il devient garde du corps du Premier ministre. Vraie histoire. Et puis tout d'un coup, il rencontre un autre juif messianique qui lui parle que Jésus, Yeshua, est le sauveur des juifs. Il lui donne à lire Ésaïe 53, le chapitre de Ésaïe 53 qui parle du Messie qui est venu mourir pour les péchés du peuple d'Israël. Il lit ce chapitre, il reçoit cette révélation et il devient croyant en Jésus. Alors tout de suite, on l'amène dans notre communauté et il dit avec sa grosse Bible, « Moi je veux servir le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Tu as quelque chose pour moi à faire, à dire ?» Je lui dis, on avait quelques problèmes nous avec peu de persécution, je dis, tu sais quoi, tu serais pas bien à l'accueil, je te verrais bien à l'accueil, à la porte, là, ce serait bien, là, comme ça, tu dis bonjour, il avait un grand sourire, il était très accueillant, c'était un gros ours, comme ça, hein. Je dis, vas-y, à l'accueil, ce serait bien. Une semaine plus tard, les Hollandais et les Allemands ramènent tes cires dans notre assemblée. » Alors il lui avait dit, « Toi, maintenant tu es devenu croyant en Jésus, on va t'emmener dans une église. » Mais il ne lui avait pas dit que dans cette église, il y avait des Israéliens. Beaucoup d'entre eux avaient fait leur service militaire, peut-être même avaient été dans ces tanks-là. Voilà que Tessir arrive, et qui il trouve à la porte ? Shlomi, anti-arabe, extrême droite, garde du corps du Premier ministre. Tessir, le Palestinien, Shlomi, le Juif israélien. Et moi, je me trouvais juste à la porte. Qu'est-ce qui va se passer ? Troisième guerre mondiale, intifada, ça sentait la bagarre. Et tout d'un coup, Shlomi, il a pris Tessir dans ses bras et il l'a serré comme ça. Longtemps, longtemps, longtemps. Et Tessir, on voyait qu'il fondait dans les bras et qu'il commençait à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ils sont restés, je ne sais pas moi, très très longtemps. Et puis, Shlomi a commencé aussi à pleurer. Et quand on voit ce gars qui pleurait, des larmes de guérison, des larmes de réconciliation. Et le Seigneur m'a parlé, m'a dit, voilà, la paix du Moyen-Orient, à travers le prince de paix. Ça ne va pas se faire à travers la politique. Ça va se faire à travers un changement de cœur. Quand le juif va aimer l'arabe et l'arabe va aimer le juif, quand ils seront unis en Jésus, parce que Jésus, c'est celui qui a amené la réconciliation et la guérison des cœurs. Et dans cette journée, ils sont devenus frères, ils sont devenus amis. Et quand Tessir s'est marié dans son village, il a invité Shlomi à être son témoin. Et puis là-bas, les mariages, c'est pas une heure, c'est 3 jours. Imaginez-vous, Shlomi, 3 jours dans ce village arabe avec le Rena et tous les. Et ces deux personnes ont été baptisées le même jour sur le lac de Galilée. Avec un troisième qui s'appelait Igor, un russe, athéiste, qui tout d'un coup a reçu cette révélation que Jésus, eh bien, c'est son sauveur. Et Igor, Tessir et Shlomi, pour ceux qui ne me croient pas, je vais vous montrer une photo. Allez, on va voir, parce qu'il faut quand même que je vous montre, que je vous prouve que c'est vrai. Je ne veux pas que vous croyiez que je vous raconte des histoires. Voilà la photo. Regardez. Igor, Tessir qui est au milieu et Shlomi qui est ici. Shlomi, il est pasteur maintenant. Il est pasteur d'une communauté. Je l'appelle la vraie paix au Moyen-Orient. Le microcosme de ce que le Seigneur veut dire. Alors, avant d'aller nous coucher ce soir, si Dieu peut apporter la réconciliation entre juifs et arabes en Israël, est-ce qu'il ne pourrait pas apporter la réconciliation dans votre famille, dans votre couple, dans votre église? Quand vous allez vous coucher le soir et qu'il y a toujours une personne à qui vous pensez des choses négatives parce qu'ils vous ont blessé, ils vous ont heurté, est-ce que ce n'est pas le moment peut-être de les aimer, de leur pardonner? Demain, nous allons voir comment nous allons pouvoir rentrer dans cette réconciliation. Parce que réconciliation, ça veut dire quelque chose qui a été concilié et qui a été déconcilié. Maintenant, on va se réconcilier. On ne se réconcilie pas avec ses amis. On se réconcilie avec ceux avec qui nous avons été désunis. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons un travail à faire. Un travail sur nous-mêmes. Un travail dans nos relations, parce que souvent ces relations qui ont été déconciliées sont des relations qui nous prennent énormément d'énergie et de temps et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce que la femme de Lot a fait? Quand l'ange les anges ont voulu faire sortir Lot et sa femme et ses filles. Oh, elles venaient juste d'acheter les meubles à Ikea. Il fallait sortir de la maison. Elle n'a pas pu résister. Elle a regardé en arrière et elle est devenue un pilier de sel. Quand on regarde au passé, on devient un pilier de sel. Et si on a une blessure dans notre vie, on reste coincé dans ce passé qui nous empêche d'aller de l'avant. Et je veux vous encourager, mes frères et mes sœurs, ce week-end, on va aller de l'avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va passer les handicaps, on va aller de l'avant, on va plus se tourner en arrière. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu nous demande maintenant de faire un pas de foi, de pardonner, d'aimer, d'embrasser notre ennemi et le bénir. Voilà. Je crois qu'on peut arrêter peut-être ici, avoir un temps de prière. Hein? D'accord? On va prier ensemble. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, que tu nous as appelés à être tes ambassadeurs. Et Seigneur, nous voulons avec tout le sérieux, Seigneur, devant toi, tu es un Dieu saint, un Dieu, Seigneur, qui nous connaît, un Dieu, Seigneur, qui désire en nous, et bien que nous marchions selon la vérité. Tu as dit dans ta parole, nous connaîtrons la vérité nous rendra libres. Seigneur, merci pour ce ministère de réconciliation. Merci de nous avoir réconciliés avec toi, Seigneur. Merci pour nous avoir appelés à être d'abord tes enfants. Tu nous aimes, non pas pour ce que nous faisons, mais pour qui nous sommes. Seigneur, merci de nous avoir rachetés. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Nous te demandons maintenant, Seigneur, d'élargir ce ministère de réconciliation dans nos cœurs, de nous rendre, Seigneur, de plus en plus disponibles à ton Saint-Esprit, à ton amour. Tu nous demandes, Seigneur, d'aimer. Tu nous demandes d'accepter l'autre. Et Seigneur, nous venons devant toi maintenant et te demandons, Seigneur, que pendant cette soirée, cette préparation jusqu'à demain, tu puisses, Seigneur, nous montrer s'il y a des choses en nous qui ont besoin d'être remises en page, d'être amenées, Seigneur, à la lumière de ton Saint-Esprit. Merci parce que tu veux nous guérir. Merci parce que tu veux, Seigneur, nous faire aller de l'avant. Merci que tu veux que nous puissions tourner la page, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus, Seigneur, qui nous sanctifie, qui nous purifie. Seigneur, s'il y a une personne qui nous a blessés, qui nous a heurtés, que ce soit une personne ou un groupe de personnes, nous te demandons, Seigneur, au nom de Yeshua, de nous donner maintenant cette grâce, de pouvoir pardonner, de pouvoir couper tout lien négatif envers cette personne ou ce groupe de personnes. Nous voulons, Seigneur, te demander la grâce de pouvoir aimer, la grâce de pardonner, la grâce, Seigneur, de ne voir, ne regarder à personne selon la chair, mais de pouvoir aller de l'avant, Seigneur, dans cette guérison et dans ce pardon et dans ce ministère de réconciliation. Élargis nos cœurs, Seigneur, nous te le demandons. Élargis nos cœurs. Élargis, Seigneur, notre foi, afin que nous puissions aimer comme toi tu nous aimes, Seigneur, sans condition. Merci, Père, pour ce que tu veux faire dans nos vies, Seigneur, pendant ces jours ensemble. Nous te bénissons au nom de Jésus.